dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 3, et nous allons suivre la lecture à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Tout ce que l'apôtre Pierre dit à ceux et à celles qui ont été les témoins de la guérison du boiteux, Il le dit parce qu'il l'avait expérimenté. Tout ce qu'il dit concernant le Seigneur Jésus était vrai pour lui personnellement. Ce qui est important pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous savons intellectuellement concernant Jésus. Ce qui est important, c'est ce qu'il est pour nous dans la réalité de notre vie quotidienne. Après avoir invité les témoins de ce miracle à ne pas fixer les yeux ni sur lui, Pierre, ni sur Jean, il insiste pour que la gloire revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ lui seul, puisqu'il dit « Ce n'est pas par notre propre puissance, ce n'est pas par notre piété que cet homme a marché, mais c'est la foi au nom de Jésus qui lui permet aujourd'hui de se présenter en pleine santé devant vous. » Qui est Jésus et qu'était-il pour l'apôtre Pierre? Au verset 13, il est écrit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâchât. » Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Nous savons pourtant que Jésus est Dieu de toute éternité. Nous croyons au Dieu unique, manifesté dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Néanmoins, le Saint-Esprit nous présente Jésus dans ce texte comme étant le serviteur de Dieu. Non pas un serviteur parmi les autres, mais son serviteur. Son serviteur Jésus. De même que Jésus est unique en tant que Fils de Dieu, il est unique également en tant que serviteur de Dieu. Il peut paraître étonnant que le Fils éternel soit présenté comme le serviteur de Dieu, et pourtant Jésus n'a jamais caché qu'il n'était pas venu sur la terre pour être servi, mais qu'il était venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je vous invite à suivre une lecture dans un texte bien connu de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et la parole de Dieu nous est utile jour après jour. Elle est vivante, elle est permanente, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et ce que nous avons lu des dizaines de fois et plus nous est quand même utile quand nous relisons ces vérités de l'Écriture. Philippiens, chapitre 2, verset 5. À nous qui avons été sauvés par Jésus-Christ, le serviteur de Dieu, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Remarquons bien, mes frères et sœurs, les paroles du verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, et on retrouve le même mot dans les versets qui suivent, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 7, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire que, aussi vrai qu'il est Dieu de toute éternité, il a été également sur la terre le serviteur de Dieu. Il n'y avait pas deux personnes en Jésus-Christ, mais deux natures, sa nature divine, il existait en forme de Dieu, sa nature humaine, il a pris une forme de serviteur. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Et c'est l'empreinte que le Seigneur Jésus a laissée dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui l'ont suivi. Il leur a laissé l'empreinte du vrai serviteur. Après la pêche miraculeuse, quand l'apôtre Pierre tombe aux genoux de Jésus, Jésus lui dit « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus lui parle de service. « Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Il aurait pu lui parler simplement du pardon de ses péchés, de sa réconciliation avec Dieu, de sa vie nouvelle, mais Jésus, dès le départ, va marquer la vie de Pierre de l'empreinte de son service. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Nous avons souvent remarqué que lorsque Saul de Tarse se convertit, la première question qu'il pose, et nous le comprenons parce qu'il ne connaissait pas Jésus, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et quand Jésus lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes », Saul va poser la seconde question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il se rend compte qu'il vient d'être arrêté par Jésus sur le chemin de Damas pour faire quelque chose. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» On a trop entendu dans le monde des croyants de tous milieux nous dire, vous savez, moi, monsieur, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Or, Dieu cherche des pratiquants. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus va lui dire, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Nous remarquons que dès que Saul de Tarse eut recouvré la vue, il s'est mis à parler de Jésus dans les synagogues. Il a servi Jésus dans la ville de Damas et il l'a servi jusqu'à sa mort. Le service accompli par Saul de Tarse ne l'a pas été pendant quelques années de son existence, mais il l'a été jusqu'à sa mort. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, dans les passages où il nous parle du ciel, il nous est dit que les chrétiens, ceux qui sont sauvés, verront la face de Dieu, se réjouiront dans la présence de Jésus, et l'Écriture ajoute, ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. C'est ce qui marque non seulement la vie de Jésus, mais l'esprit du ciel, l'esprit du service. Ils verront sa face et ses serviteurs le serviront. Apprenons donc, mes frères et sœurs, à mettre nos pieds dans l'empreinte des pas de Jésus. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que pendant 3 années et demie, Jésus les a entraînés dans le service. Une fois dans les évangiles, Jésus les a invités à venir à l'écart en leur disant « Reposez-vous un peu ». Une fois. Mais tout le reste du temps, le jour et parfois même la nuit, Jésus les entraînait dans le service. Et quand il est arrivé à la croix, Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il était le serviteur de Dieu, parce que sur la terre il a servi Dieu comme aucun être humain ne l'a jamais fait, et il est certain que sur la terre, ceux qui le suivaient étaient formés au service de Dieu. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus est le vrai formateur. Suivez-moi, dit-il, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des serviteurs de mon Père, comme je le suis moi-même. Je vous apprendrai à servir Dieu. Je vous apprendrai à gagner des âmes. Dieu a glorifié son serviteur, Jésus, et il glorifiera tous ceux et toutes celles qui se seront attachés à Jésus pour l'aimer et pour le servir. Pierre va présenter Jésus comme étant le saint et le juste. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, Épître aux Hébreux, chapitre 7. Nous suivons la lecture des versets 25 et 26. Hébreux, chapitre 7, versets 25 et 26. C'est aussi pour cela qu'il peut, Jésus, sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et l'Écriture ajoute, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, alors que pas un être humain a été aussi proche des pécheurs que Jésus ne l'a été. Néanmoins, l'Écriture nous dit que par sa sainteté, son innocence, l'absence de tache dans sa vie, Il a été séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, Jésus qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Dieu a glorifié son serviteur Jésus, et le serviteur de Dieu était saint. Saint en tant que Dieu, il l'était en tant qu'homme, le saint et le juste. Il disait toujours la bonne parole à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Il faisait ce qui était bien au bon moment envers les bonnes personnes. Jésus était saint, juste dans toute sa conduite. C'est ainsi que l'apôtre Pierre le connaissait, pour ne pas dire que c'est ainsi que les démons eux-mêmes le connaissaient. Et n'hésitez pas dans certains cas à lui dire « Tu es le saint de Dieu ». Le diable sait à qui il a affaire quand il s'oppose à Jésus-Christ. Puissions-nous lui ressembler, mes frères et sœurs, afin que l'adversaire de nos âmes ne puisse jamais dire « Lui est saint et juste », mais certains qui se réclament de son nom sont à l'opposé de ce qu'il est. Le saint et le juste, c'est ce qui a caractérisé Jésus et c'est ce qui doit nous caractériser. L'Écriture nous le présente comme le prince de la vie. Prince de la vie, comme on peut trouver ailleurs, prince de notre salut, et qui signifie littéralement celui qui donne la vie parce qu'il la possède en lui-même, qui signifie littéralement celui qui engendre, le Créateur en fait. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Il s'agit ici évidemment, vous l'avez compris, de la mort physique de Jésus, puisque son être intérieur, sa personne, ne pouvait pas mourir. Certains se sont servis de la mort de Jésus comme d'un argument pour dire qu'il n'était pas Dieu. S'il avait été Dieu, il ne serait jamais mort. C'est son corps qui a passé par la mort. Quant à lui, nous savons qu'avant de rendre l'esprit, il l'a remis entre les mains de son Père, de telle sorte que Jésus nous apparaît dans les Écritures comme étant celui qui donne la vie, qui la communique, qui l'entretient en chacun d'entre nous. Il n'est pas seulement un prince, comme peuvent l'être les princes de ce monde. Il est le Fils de Dieu créateur, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Vous avez fait mourir le prince de la vie, et l'Écriture ajoute « Dieu l'a ressuscité des morts ». Alléluia, nous en sommes témoins. Et c'est le corps de Jésus qui est sorti du tombeau. Lui n'avait pas besoin de sortir du tombeau puisqu'il avait remis son esprit entre les mains de son Père. Mais le matin de Pâques, l'Esprit de Dieu a visité le corps de Jésus, lui a donné un corps de résurrection, comme nous le dit le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Dieu a ressuscité le prince de la vie. Il l'a ressuscité il l'a suscité à nouveau. Vous, vous avez voulu vous en débarrasser. Vous l'avez crucifié. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Cet homme que Dieu avait suscité pour le salut de votre âme, vous l'avez fait mourir. Mais Dieu l'a suscité à nouveau. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. L'Écriture va nous montrer que l'ignorance n'est jamais un avantage pour l'être humain. Pierre leur dira, « Je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Que ne peut-on pas faire de coupable à cause de l'ignorance ?» Et nous comprenons que dans ses épîtres, l'apôtre Paul écrive « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Notre cœur, notre esprit, notre être intime ont besoin de connaître le Seigneur Jésus, de connaître la vérité divine, afin que nous ne nous rendions jamais coupables de péché par ignorance. La parole de Dieu nous dit qu'il est normal que notre amour pour Dieu augmente de plus en plus, en pleine intelligence, en toute sagesse, afin que nous discernions les choses les meilleures. L'apôtre Pierre va parler ensuite du retour de Jésus. « Repentez-vous donc, leur dit-il, et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. » Pourtant, quand l'apôtre Pierre parle, le ciel l'avait reçu. Et nous y reviendrons dans quelques instants que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. On est toujours étonné en lisant les Écritures de voir que le Saint-Esprit peut dire beaucoup de choses en peu de mots. Il nous arrive si souvent, nous, de ne pas dire grand-chose avec beaucoup de paroles, mais l'Écriture nous dit beaucoup de choses en peu de mots. Jésus, le serviteur de Dieu, Jésus, le Saint et le Juste, Jésus, le Prince de la vie, Jésus, dont le nom guérit même les boiteux, infirmes depuis 40 ans, infirmes de naissance. Jésus, le Messie souffrant, parce que c'était là le but de la venue de Jésus, c'était l'accomplissement des prophéties. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Alors, pour revenir au retour de Jésus, sachons bien qu'il va se produire en deux temps. Et c'est là où nous devons éviter de mélanger les prophéties. Le retour de Jésus va se produire en deux temps. Dans un premier temps, l'Écriture nous dit qu'il va apparaître sur les nuées du ciel au son de la trompette et qu'apparaissant sur les nuées du ciel, les morts en Christ vont ressusciter premièrement et que les chrétiens vivants à ce moment-là seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et seront transformés à son image, seront pour toujours avec le Seigneur. Aussi l'Écriture dit-elle, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais quand l'Église aura été enlevée sur les nuées du ciel avec Jésus, à ce moment-là, il y a 3 années et demie qui vont s'écouler, que l'Écriture appelle le temps d'angoisse pour Jacob. C'est à ce moment-là que le peuple d'Israël aura à souffrir de la part de toutes les nations, et 3 ans et demi après sa venue sur les nuées, le Seigneur Jésus pose ses pieds. Samuel n'ont pas marché sur les traces de leur père, donc toutes ces choses ont lassé le peuple. Toujours en conflit avec les Philistins qui faisaient des ravages en Israël, déçu par le comportement des fils de Samuel, le peuple de notre vie chrétienne, je le répète, c'est que nous manifestions la victoire de Jésus-Christ sur le diable, sur le monde, sur la terre. Jésus revient, le ciel le reçoit, et 3 ans et demi après, Jésus pose ses pieds sur le mont des Oliviers, et assisté par l'Église, Israël étant le royaume terrestre, Jésus établit son règne de 1000 ans, que l'Écriture appelle ici des temps de rafraîchissement. Et quand nous voyons ce qu'est la situation du peuple d'Israël aujourd'hui, nous comprenons que ce peuple a bien besoin de temps de rafraîchissement. Et ces temps de rafraîchissement ne viendront ni d'Israël, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ils viendront par Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au moment du rétablissement de toutes choses. On peut être heurté par ces paroles du verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et nous pouvons nous dire, ça, c'est l'affaire des inconvertis, ça ne me concerne pas. Lisons dans la seconde épître à Timothée, Seconde épître de Paul à Timothée, verset chapitre 2, verset 25. Il doit, l'ancien, le prédicateur de l'Évangile, le pasteur, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils avaient donc, ces gens-là, connu une époque de bon sens dont ils s'étaient éloignés, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, donc ils avaient été soustraits par l'Évangile, par le sang de Christ, à la puissance du diable, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Ils avaient été sauvés par Jésus-Christ, mais le diable s'est à nouveau emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça, ce sont des paroles qui devraient nous interdire de traiter à la légère les frères et les sœurs qui s'éloignent de Jésus-Christ. Leur condition est terrible. Leur condition est terrible parce que l'Écriture dit « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Je ne sais pas ce que nous éprouvons lorsque nous sommes en présence de quelqu'un dont le diable s'est emparé, mais ces paroles de l'Écriture devraient nous amener à prendre avec un grand sérieux la situation de ceux et de celles qui se sont détournés de la foi, détournés de la vérité. Ce n'est pas une mince affaire. Ils s'en sont détournés parce que le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ça vaut la peine de prier avec ferveur pour nos frères et sœurs qui se sont détournés du droit chemin afin que Dieu leur donne la repentance. Pas seulement la repentance pour les pécheurs inconvertis, mais la repentance pour les chrétiens qui se sont éloignés de la vérité. Et puis, l'apôtre Pierre parle de Jésus comme le prophète. Moïse a dit « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Car celui qui n'écoutera pas le prophète Jésus que Dieu va susciter sera exterminé du milieu du peuple. » Écouter la parole de Dieu, c'est sérieux. Écouter ce que Jésus a à nous dire, c'est sérieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Gardons-nous bien de penser, mes frères et sœurs, gardons-nous bien de penser qu'ayant accepté Jésus comme notre Sauveur, ayant été baptisés, plongés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, nous pouvons faire n'importe quoi et quand même aller au ciel. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, non pas à moitié, non pas avec une oreille distraite, non pas dans ce qui vous plaira, mais vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et enfin, l'apôtre Pierre parle de la promesse de la bénédiction de Dieu. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et l'apôtre Paul explique dans son épître aux Galates qu'il s'agit bien de Jésus, puisque la postérité est mentionnée au singulier. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dans la personne de Jésus, il n'y a pas seulement la guérison du boiteux qu'on plaçait à la belle porte du temple, mais dans la personne de Jésus, il y a la bénédiction de Dieu pour tous les êtres humains qui croient. Dieu l'a envoyé pour nous bénir. Dieu l'a envoyé pour me bénir. Mais nous avons remarqué, je pense, la condition en détournant chacun de vous de ses iniquités. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de dire au Seigneur, chacun pour sa part, Seigneur, tu sais ce qui, dans ma vie, fait obstacle à ta bénédiction. Seigneur, tu sais mieux que moi-même ce qui t'empêche de me bénir. Alors, s'il te plaît, viens à mon secours et aide-moi à me détourner de mes iniquités. Aide-moi à me détourner de ce qui me prive de ta bénédiction. Et nous croyons que si nous faisons cette prière, le Seigneur l'exaucera. Le Seigneur l'exaucera parce qu'il a envoyé Jésus pour nous bénir. Donc quand il ne peut pas nous bénir, il y a obstacle au plan de Dieu. Mais quand nous disons, Seigneur, ôte de mon cœur ce qui t'empêche de me bénir, alors nous entrons dans le plan de Dieu et le Seigneur intervient en notre faveur. Mes frères et sœurs, faisons-lui cette prière. Seigneur, aide-moi à me détourner de mes iniquités, afin que la bénédiction de Jésus puisse être sur ma vie, sur mon couple, sur ma famille, et que ton nom soit glorifié en moi par le Saint-Esprit.